Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne. Après une victoire rennaise à l'extérieur qui plus est, à deux matchs de la fin du championnat, tous les espoirs ou presque sont permis, même si quand même on a eu très peur à Metz samedi soir, même si la défense effraie tout le monde, c'est un vrai film d'horreur. On va quand même parler de ce match avec un super plateau, un plateau inédit. D'abord avec Katel Lagré, dit West. Salut Katel,
salut,
ça va bien?
Ça va.
Merci d'être venu de si loin pour
oui,
être avec nous.
Surtout que la fin de saison est chargée, parce qu'on a le Stade Rennais, mais nous on a Nantes et Lorient qui se battent pour le maintien, et Brest qui veut accrocher la Ligue des Champions, on est rincés.
Ah oui, c'est vrai que
ça s'arrête.
Là, Cop West, vous avez des choses. Faut étirer l'émission.
C'est ce qu'on fait, on est obligé.
on a avec nous David Thomas du Télégramme. Ravi de vous retrouver, David.
Salut Vincent.
Et puis, de l'autre côté de la table, un duo inédit cette saison. Alors, ils sont dans le même bureau tout au long de l'année, mais première fois qu'ils se retrouvent côte à côte pour Pleine Lucarne. Pierre Le Gall, Père Argal, de retour de Saint-Symphorien. Salut Pierre.
Salut Vincent, on va essayer de cohabiter, même si on ne peut pas supporter avec Guillaume.
Mais oui, voilà. c'est compliqué.
J'avais essayé qu'on se parle, en fait. C'est ça qu'on attend votre émission, pour se parler avec Pierre.
Ouais. Parce que j'ai essayé de faire en sorte qu'on fasse une saison entière sans que vous vous retrouviez, mais non, ce n'était pas possible.
Ça a été dur.
Vous étiez là tous les deux. Guillaume Lenné est avec nous également. Salut Guillaume.
Salut Vincent, salut tout le monde.
On ne va pas perdre de temps et on va revenir sur le match qui s'est déroulé sous des trompes d'eau. C'était samedi soir à Metz. Metz recevait le Stade Rennais. Pourtant, au coup d'envoi, il ne pleuvait pas. Il s'est mis à pleuvoir juste après. Et les premiers en action dans le match sont les Rennais, qui sont plutôt offensifs, avec Kalimuendo, qui trouve Oukidja, les bras d'Oukidja. Mais oui, mais évidemment, il y a une défense à Rennes. Et regardez ce premier but. Voilà, le Mikotadze part entre les deux joueurs. Mandanda est à la pêche. Et il se fait lober. Le but est magnifique dans sa réalisation, mais il est offert. Regardez la latitude que l'on donne à Mikotadze. Pourtant, on essaie de le coincer dans un coin, mais non, le gardien est sorti. Donc ça fait 1-0 contre le cours du jeu, parce que les Rennais, des occasions, ils en ont une fois, deux fois, Oukidja. Et on se dit que ça va venir. Ça vient finalement assez vite sur ce ballon de Terrier. Pour Guéry, reprise encore un peu de poussin, mais derrière, RL marque contre son camp. Regardez, le centre est beau, la reprise est un peu écrasée, mais derrière, le pauvre Oukidja est trompé par son gardien. Et les Rennais vont accélérer, il n'y a que Rennes dans cette première période. Frappe fuyante de Terrier, dégagée par Oukidja. Geste magnifique dans la surface de réparation de Bourigeaud. Le pied gauche d'Oukidja, on se dit Rennes va marquer un deuxième but. Oui, mais non, quand on saute à contre-temps comme ici, eh bien on se fait piéger. On revient pas non plus sur l'attaquant, pourquoi essayer de le marquer? Derrière, pas d'arrêt non plus de gardien. Donc ça fait 2-1. Ils ont eu une seule balle dans la surface de réparation adverse et ils ont marqué deux buts, les Messins. Ils sont à deux doigts d'en marquer un troisième en début de seconde période. Alors là, il y a un cafouillage en deuxième mi-temps qui s'achève par une frappe sur Oukidja. Et on va regarder cette balle de contre. Et là, le sauvetage de Théâtre. Parce que là, tout le monde le voit, le but. On dit, allez, ça fait trois. Mais non, tête d'Arthur Théâtre pour écarter le danger. Et on ne sait pas, mais c'est la balle de match. Parce que dans la foulée, Monsieur Buquet, meilleur arbitre du monde, signale un pénalty. On y reviendra sur l'arbitrage de Monsieur Buquet. Pour cette faute, cette poussette. Alors, on n'a que ce plan-là, nous, malheureusement, pour vous le montrer. Le ralenti et le but et le pénalty parfaitement tiré par Bourigeaud. Ce qui fait 2-2. Là, M. Buquet va oublier un pénalty. On y reviendra là encore. Il n'est pas content, Bourigeaud. Derrière, il y a une frappe écartée par Oukidja. Et là, juste à la fin du match, on reviendra également sur cette action. Elle est magnifique. On retrouve Matuziwe oui, et Yildirim à deux reprises dans cette action, ponctuée par le but de Kalimuendo. On joue la 96e minute et Rennes s'impose 3-2. On voit la joie des Rennais et l'affliction des Messins. Et regardez le classement, on va beaucoup y revenir, puisque voilà que les Rennais ont repris provisoirement la 7e place, puisque Marseille et Lyon n'ont pas joué. On a un Lille-Lyon ce soir. Mais dites donc, on a le droit d'y croire un peu quand même, Katel.
Oui, c'est incroyable, hein, parce qu'on ne faisait pas les malins quand même samedi sur les coups de 20h. Oui, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que, un, Rennes peut encore y croire, et deux, Rennes n'a pas sombré. Et franchement, pour ceux qui étaient au Roazhon Park dimanche dernier, ça a quand même été un énorme coup sur la tête. Et franchement, je ne donnais pas cher de leur peau à Metz.
C'est vrai.
Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est qu'il y a eu là le caractère, l'envie de dire on s'est fait avoir une fois et maintenant on va relever la tête. Ils ont vraiment relevé la tête après le pénalty, mais quand même globalement, la première mi-temps était pas mal. Et je trouve que cette force de caractère-là, après ce qu'ils ont pris face à Brest, c'est quand même à l'ouest.
Ouais, c'est à mettre dans les points positifs, on y reviendra, mais sur le classement.
On ne sait pas si on y croit. Moi, je ne sais pas si j'y crois, parce que déjà, je veux voir ce soir ce que va faire Lyon à Lille.
Car au moment où nous enregistrons cette émission, le match entre Lille et Lyon n'a pas eu lieu.
Voilà, il y a ça, et il y a Marseille qui n'a pas joué de fin non plus. Donc ces deux équipes-là, si elles remportent leur match en retard, donc à la fois contre Lille et contre Reims, qui n'est quand même pas exclu que Marseille gagne à Reims, hein, vu l'état de Reims sur cette fin de saison, Rennes sera à nouveau 9e. Donc même à deux journées de la fin, il serait 9e avec du retard, avec deux points de retard. Donc c'est
compliqué. Mais là, Rennes peut être 5e. Regardez. Nice à 51 points. Rennes fait le plein.
On va faire le sketch de la chauve-souris de Bigard. Admettons que Nice perd ses trois derniers matchs et que Rennes gagne les derniers et que Lens perde en plus de Rennes-Montpellier la semaine prochaine et que Lyon et Marseille.
Non, mais mathématiquement.
Si vous voulez, mathématiquement, mais la cinquième, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Même la sixième, je pense c'est très compliqué. La cinquième, comme l'a dit Guillaume, il n'y a rien de changé. Pourquoi pas? C'est vrai qu'un faux pas de Lyon ce soir à Lille, tout à fait envisageable. Après, Marseille est pas mal pris par la Coupe d'Europe, ils vont jouer trois matchs en une semaine, même s'ils n'ont pas un calendrier ultra compliqué. Mais dans les faits, les lignes n'ont pas tellement bougé. Et ça, c'est en partant du principe que la 7e place sera européenne. Donc, le droit d'y croire, c'est vrai, mais c'est encore assez longtemps quand même.
Au moins, il y a un intérêt sur les derniers matchs. Au moins, il y a un intérêt contre Lens. Il pouvait y avoir un zéro intérêt sur Rennes-Lens, quasiment, s'il y avait défaite à Metz. Hein.
Il faut surveiller aussi le goal average. Lyon a un goal average très négatif, David. Hein.
Ouais, je ne sais pas exactement.
Ils sont à moins 9 et Rennes est à plus 8. Enfin, un truc comme ça.
Ils sont très bas.
Donc, en cas d'égalité. Rennes est devant. Faut regarder l'OM.
C'est avec Marseille, voilà.
Alors l'OM va jouer à Reims, va recevoir Lorient et ira au Havre.
Non mais tu sais ce que c'est le pire, c'est que Lyon va gagner la Coupe de France et que tu seras comme des cons. Non,
mais c'est ça le pire, oui, parce que.
Parce que la forme de l'OL en ce moment, moi, ils me font très très peur.
Mais non. Mais
vu la branlée qu'ils ont pris contre le PSG.
Oui, et bah tu vas voir sur la finale de la Coupe, je le sens pas du tout.
Eh bien, ils vont peut-être sacrifier le championnat pour jouer toute la Coupe. Ouais. Ça peut être aussi, mais ça ne changerait rien pour Rennes, sauf d'être 5e ou 6e.
En attendant, il faut déjà battre Lens le week-end prochain, ce qui est tout sauf évident, et gagner à Reims, ce qui ne sera pas évident.
On va y revenir. Mais c'est vrai que c'est difficile d'y croire, au vu de ce que montre le stade rennais, mais c'est possible, et l'espoir est encore là, et c'est ça qui fait que samedi, le match va être assez génial.
Dimanche. Oui, ça ne venait pas trop tôt au stade, mon cher Vincent.
J'ai peur de m'ennuyer. On revient sur le match. Donc, le match avec des changements dans la compo, Pierre. 4 changements au coup d'envoi par rapport ce qui s'était passé face à Brest. Des changements très compréhensibles, finalement.
Bah déjà, le fait que la défense soit beaucoup bougée après ce qui s'était passé contre Brest. Donc déjà, Omari était incertain. Je pense que même sans ça, Wu aurait pu sa place. Plus les deux latéraux,
Omari, il est incertain. Médicalement ou officieusement
je pense que vous aurez démarré quoi qu'il arrive. Truffert revenait de blessure et ensuite je pense que c'est doux aussi. Guélaloui a eu un match compliqué et après moi j'ai bien aimé l'idée de mettre Désiré Doux au milieu de terrain sur un match où vous alliez beaucoup avoir le ballon, où il serait beaucoup face au jeu. Je suis quand même pas sûr que ce soit son rôle le plus utile. Mais maintenant, après, sur la compo, et surtout, je trouve que c'était important de remettre Goury, qui n'a pas démérité, et ça pourrait être un petit peu dur pour lui d'être remplaçant sur ce qu'il montrait, même si Kalimundo, évidemment, est très bon sur les derniers.
Mais Lucien, même pas dans le groupe.
Non. Pareil, il n'était pas parmi les incertains.
C'est un choix. Et puis Santa Maria, on s'est demandé, mais il y avait un problème d'adducteur, semble-t-il. Et puis, il vaut mieux qu'on l'ait ménagé, parce qu'il n'y a pas de Matuziwa contre Lens. Bon, donc. Choix à peu près compréhensible. Moi, quand je vois l'équipe tomber, je suis un peu comme vous, David. Je me dis, c'est l'équipe idéale.
Idéal en tout cas. Après, les 5 buts encaissés contre Brest, t'étais obligé de changer quelque chose, et notamment derrière, et ton animation au milieu aussi. Enfin, il y avait des choses à changer en fonction des absents, des incertains, etc. Donc, c'était pas illogique de faire ces choix-là. Maintenant, quand on voit la facilité et la passivité sur les buts, on se dit que ça change rien. En fait, tu changes les hommes, mais que la défense reste une défense de All-Star Game, pour passer la main à Pierre. C'est une défense gruyère. C'est juste, on défend pas, on laisse. Et puis, Rennes, il y a le pendant intéressant, c'est que les attaquants marquent des buts. Donc voilà. En fait, voilà, c'est ça qui est bien. Mais puisqu'il y a eu 4 buts quand même contre Brest aussi, si on veut positiver, et 3 buts le ce week-end. Donc,
oui, oui. Et puis 3 buts à Nantes. Voilà, donc Rennes marque des buts.
Rennes marque des buts. Mais défensivement, c'est pas possible.
Trois quarts de la défense. Et c'est pareil.
Bah. Tu changes les hommes. En fait, il n'y a pas eu d'équipe type en défense cette saison, et pour cause. Puisqu'en fait, tu les changes et le résultat est le même. J'ai l'impression que Steve Mounier, après le match à Brest, est venu nous dire en zone mixte. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai dit aux collègues, tu mets dans la surface, ça oui, va rentrer, c'est te dire. C'est-à-dire qu'en fait, les équipes adverses, c'est bah écoute, tu centres et tu verras bien, de toute façon, on a bien un ou deux qui vont rentrer. Quoi.
Là, on l'a vu, même dans la composition de Metz, il a fait exprès de travailler sur les excentrés, bien en sûr, sachant oui, très bien qu'il fallait travailler là, sur les excentrés, des appels à certains endroits. Le premier but, il vient de là.
Hein. Exactement. On découvre pas qu'il n'y a pas de défense type et que les joueurs sont tous moyens à un niveau médiocre. Certains, apparemment, sur les réseaux réclament la paternité justement de l'annonce d'une défense trop faible, globalement, trop jeune, tout ce que vous voulez. Nous, ça fait des mois qu'on le répète ici, qu'on le répète dans la presse aussi, oui, dans les journaux.
Voilà,
on l'a pas découvert à Metz, on l'a pas découvert contre Brest. Alors malheureusement, là, c'est de pire en pire. Alors moi, l'argument de Julien Stéphan, on va peut-être en reparler, de dire qu'en gros, depuis Monaco, il faut être proactif.
Ouais, on va en parler.
Alors, bon, moi, je veux bien, mais ça n'empêche pas les faiblesses individuelles de compréhension défensive.
Mais le problème, c'est que à chaque match, c'est un gars différent qui fait les boulettes.
Là, c'est 7 joueurs différents quasiment sur les 7 buts encaissés depuis le week-end. Oui. Hein, là, il y a eu Mandanda Théâtre qui sont ajoutés à Omari, Bélossian, Guéladoué, peut-être le match d'avant. Il est pratiquement. Ça montre là que, comme Omari a beaucoup pris, mais c'est le problème est plus global, mais on le savait déjà avant.
Il y avait Assignon avait été impliqué sur des buts avant son départ. Enfin, c'est pareil. Tout le monde, David, finalement.
David parle d'arbre de Noël permanent.
Oui, mais c'est ça. Si en plus Mandanda s'y met.
Alors, on va voir les deux buts. On va voir le premier. Allez, le premier, c'est ça. Alors, on lance un joueur, Miko Tadze, qui est le seul danger, finalement.
Là, c'est bien joué de la part de Jalou.
Mal joué de la part de Théâtre qui essaye de le bloquer. Mais enfin, il le bloque comme il peut. Il voit surtout pas que son gardien est sorti, mais totalement aux fraises. Regardez où est Mandanda.
Il y a quand même Théâtre qui laisse justement Miko Tadze en jeu. Hein. Si ce mot s'y monte un peu plus, Miko Tadze est en jeu au départ de l'action.
Ah, ben c'est vrai, c'est vrai. Après, il essaie de le cadrer sur le côté. Mais il n'a rien à faire là, Mandanda. Et le deuxième.
Il le cadre quand même avec beaucoup d'espace.
Théâtre. Impossible, ça. Et regardez, le joueur au milieu, là, au centre, personne va le chercher.
Non, mais le décalage est déjà fait aussi. Ouais. Là, vous avez déjà perdu.
Passes,
là.
Tu peux être dans le vent comme ça, quoi. C'est la folie.
Regardez ça.
Il peut rien faire. L'appel est parfait.
C'est d'où peut rien faire. Il est trop loin pour pouvoir aller couper.
Ouais, il est trop loin. Puis derrière, il n'y a pas d'arrêt.
L'appel est parfait dans la bonne zone au bon moment.
Moi, j'entends le côté un peu béni, oui. Vous savez, c'est pas que la défense, c'est toute l'équipe. Et on a encore eu le même. Là, si vous regardez les buts. Il n'y a que la défense qui est concernée, pas le milieu de terrain.
Les défenseurs, ils sont censés défendre, non? Donc, ils sont censés cadrer, ils sont censés tenir des zones, ils sont censés tenir des mecs. À un moment, s'ils ne sont pas capables de le faire, c'est qu'ils n'ont pas le niveau pour être à Rennes ou même pour être dans le championnat, là. Je ne sais pas, moi, c'est peut-être méchant et dur de le dire, mais en même temps, comme le disait Guillaume, c'est pas nouveau qu'on découvre que Rennes a des fragilités, a des faiblesses défensives.
Vous avez écrit, vous avez dit, il reste 2 matchs, et évidemment, on ne va rien changer.
Ben oui. C'est pour ça qu'on avait Truffert en conf de presse en avant, qui disait si on avait les solutions, on ne serait pas dans une situation. Mais en fait, les solutions, on sait lesquelles elles sont. Mais est-ce que vous avez le matériel pour? Non. Vous savez très bien ce qu'il faut faire, mais c'est pas possible actuellement. Et on parlait de la défense. Là aussi, je vais juste rappeler le troisième but empêché par Théâtre. Là encore, il aurait été pour la défense tout seul. Ils vont à 3 sur le porteur de balle, avec Wu qui va complètement aider Théâtre qui n'en a pas besoin, et même Seydou qui va dessus. Il y a des fois le bloc équipe, là c'est pas tellement le cas le jour, mais c'est vraiment la défense en elle-même. Il y a des problèmes d'attitude en permanence.
C'est un niveau technique, c'est un niveau tactique, c'est de la compréhension de football.
C'est de la fébrilité, c'est du manque de confiance, c'est du manque de caractère malgré tout, de pas justement être assez solide mentalement pour pouvoir switcher quand il y a un doute, quand il y a une. Voilà, c'est un ensemble. Pour moi, il y a ça aussi, parce que c'est pas des mauvais joueurs individuellement parlant. Après, je pense que c'est malgré tout des joueurs. Trop moyen pour une équipe qui veut viser le top 5.
Alors, vous avez parlé de ce qu'a dit Julien Stéphan. Je vais vous mettre cet extrait. C'est assez incroyable. Il l'a dit en conférence de presse après le match à Metz. Voilà des semaines qu'ils ont prévu quelque chose parce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. C'est un peu ça. Écoutez.
Il y a 6 ou 7 matchs, je pense, ou 6 matchs à Monaco avec les joueurs. On a pris un engagement ensemble. Dire que notre salut sur la fin de saison passerait de toute façon par une proactivité constante et une volonté de marquer des buts et de créer du danger en permanence. Voilà, donc quelque chose qu'on a évoqué aussi en interne. Non, on ne changera pas les choses sur les deux derniers matchs, ça c'est sûr. On peut corriger un tout petit peu, mais on ne changera pas fondamentalement les choses. Il y a eu 3 changements aussi sur la ligne défensive entre le dernier match et le match d'aujourd'hui. Donc on a fait aussi beaucoup de turnover sur cette ligne-là. Oui, j'entends que vous me parliez de ces problématiques-là. Moi, je vous réponds par ce qu'on fait offensivement pour essayer aussi de contrecarrer ça.
Après, traduction.
Il peut pas. Traduction.
Il faut marquer plein de buts parce qu'on en encaissait beaucoup.
Ou traduction dans la communication externe, il peut pas taper sur ses défenseurs parce que ça les enfoncera encore plus. Déjà qu'ils sont pas bien mentalement.
Il y a un mercato qui arrive bientôt et qu'il y a des joueurs qui doivent partir et que la vente. Il faut pas que la valeur des joueurs qui est pourtant déjà pas énorme soit encore plus effritée sur les 2 journées qui viennent. C'est couillon. Et tout est comme ça.
Le foot, c'est de marquer le but du jeu, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. On est d'accord. Bon vu que t'en prends beaucoup, il t'en reste à en marquer beaucoup plus.
Mais
moi je me mets à la place des défenseurs dans le vestiaire au moment où a été prise cette décision. Bon écoutez, vu que derrière vous avancez,
chèvres,
les gars, ce qu'on va faire, on balance tout devant et vous en mettez le max.
Non, mais c'est ça, mais c'est exact. Mais parce que c'est ça qui s'est dit, on s'est tous réunis, on s'est dit bon, ok, on a une mauvaise défense, mais il faut en marquer plein. C'est incroyable.
Le foot du dimanche, tu fais ça, tu sais, quand tu joues avec tes potes, bon, ils sont nuls en défense. On balance tout.
On se blesse pas, on bosse demain.
C'est sûr que l'argument de Stéphane, enfin, il est assez fou de dire. Bon, ça me paraît fou quand même d'entendre ça.
Faut être proactif.
En plus, puis le foot, vous savez très bien que vous obtenez des résultats par aussi une base, certains. Une base défensive. Il faut forcément ça. Vous pouvez pas avoir des résultats si vous n'avez pas une base défensive, un minimum correct, avec quelques garanties par l'arrière. C'est pas possible en fait dans le football, ça n'existe pas.
Le meilleur exemple, c'est cette année Nice qui a d'abord construit tout derrière. Et en étant très très peu offensif.
Mais au début,
ils ont été vachement forts et vachement hauts en championnat grâce à leur défense en premier lieu. Oui.
Bon, je préfère l'inverse.
Moi aussi, mais je préfère des matchs avec beaucoup de buts.
Que ça arrive à Rennes.
Par contre,
Pierre, vous y croyez pas trop à ce discours, si ?
Non, mais moi, ça ressemble beaucoup à la calinothérapie que faisait Genesio. Je pense qu'il a bien compris quel groupe il avait et qu'il avait besoin d'être rassuré. Enfin. Mais encore une fois, il dit être proactif, etc. C'est une chose. Alors, aller de l'avant. Etc., c'est certes, mais je pense qu'il se passerait bien quand même de tous les volets défensifs qu'il voit. C'est ça le truc. Vous pouvez prendre des buts justement en encaissant des contres si l'adversaire joue parfaitement le coup, mais on peut pas dire bon, de toute façon, on sait très bien qu'on va prendre 2 ou 3 buts par match sur des boulettes. Ils sont pas mis d'accord là-dessus.
Non, mais c'est affreux et ça fait presque rire. Mais alors, je sais qu'il y en a qui préparent déjà des compilations chez les collègues des boulettes de l'année, mais c'est même pas des boulettes, c'est...
La collection, elle est incroyable.
C'est un plat de boulettes, cher à Christophe Penben. Voilà. Regardez l'action dont vous parliez, le transperçage en règle. Il y a une touche pour Rennes. On est devant. Voilà. Et là, on va mettre un joueur qui se fait avoir. Et à partir de là, regardez bien, on démarre à 1 contre 3.
Le problème, c'est les 2 centraux. Regardez la lutte des centraux, là. C'est la folie. Il n'y en a pas un qui sort.
Non, il oublie totalement le gars. Et on va le voir sous un autre angle. Regardez le marquage de Wu. Il ne sait pas où il est.
Moi, ça me rappelle le but du Havre en tout début de saison où justement Wu était impliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il a complètement oublié le joueur sur sa gauche.
Le fameux les regrets, c'est le Havre.
Les regrets, c'est le Havre.
Rennes menait 2-0, ça revient à 2-2, alors que Rennes est en supériorité numérique. C'était exactement le même but. Donc on voit que cette défense, elle n'apprend rien. Match après match.
Tu te rends compte, t'as la troisième attaque aussi, de Ligue 1,
ce qui est affreux pour les joueurs et affreux pour les entraîneurs aussi.
L'entraîneur est proactif, donc tu peux pas lui dire qu'il n'apprenne pas.
Alors il y a des points positifs, parce que là ça fait quand même pas loin maintenant. De 18 minutes qu'on vous dit que c'est catastrophique.
C'est vrai que c'est certain qu'on fait jamais en plus sa défense.
Non, c'est pas comme si on le disait pas depuis. Des points positifs, Katel dès le début. D'abord, Rennes renverse le match. Ça c'est inédit.
Oui, et puis dans une deuxième mi-temps très compliquée, électrique, avec les Messins, avec le public, etc. Je pense qu'il y a une forme de logique quand même sur le fait que le match se renverse sur la deuxième mi-temps. Il y a quand même une vraie différence de niveau. On parle souvent des adversaires, etc. Enfin, Metz c'est quand même vraiment très très faible et c'est un miracle déjà qu'ils arrivent à 2-1 à la mi-temps.
Bah, c'est un miracle, oui. Un ballon touché dans la surface.
Oui, mais en même temps, ça veut dire que tu étais très très faible défensivement.
Ah oui, c'est ça. On arrête pas. Ça fait maintenant 19 minutes 30 qu'on en parle.
Mais avec oui, effectivement, alors c'est un peu bateau de dire du caractère, mais c'est un peu vrai malgré tout. Et aussi, j'ai bien aimé, moi, un peu Kalimundo dans le rôle de l'antagoniste. Alors, j'ai pas aimé tout ce qui a suivi, toute l'insulte qu'il a pris derrière avec là, mais le fait d'aller provoquer le pénalty, le fait de montrer aussi de passer les messages dessus, c'est lui qui provoque l'expulsion de Mikotadze, bon, très controversé, etc.
Ça ne nuit pas. Non, mais c'est vrai.
Rennes retourne le match. C'est la première fois, hein, on leur dit, parce qu'il l'avait fait à Clermont, mais en supériorité numérique. Rennes marque des buts. Donc Rennes a du mental. Et vous l'avez dit, c'était pas évident après Brest.
On était beaucoup à dire que le but de Mikotadze, là, t'avais l'impression que ça pouvait être une pelletée de terre dessus et que la saison était finie. Hein. Sincèrement, ça donnait vraiment cette impression-là.
Le début de semaine a dû être compliqué à Rennes. Hein.
Et le coach l'a dit, pour le coup, moi je suis assez d'accord, c'est vrai que les entrants ont été plutôt impactants.
Oui.
Alors pour une fois qu'il dirime, fait une entrée où il sert à quelque chose, autrement qu'aller voir se battre avec tout le monde, c'était quand même bien positif, parce que sur le but, il fait une action magnifique.
Hein, et il donne une passe D aussi après à Le Fait, qui cadre pas.
Ouais, mais Le Fait fait une bonne entrée aussi. Il a stabilisé le milieu de terrain, et ça a permis quand même d'avoir un peu plus de maîtrise.
Regardez le troisième but. Il illustre tout ce que vous dites. Voilà. Troisième but, ici. C'est pareil, hein, c'est une action, c'est une touche aussi.
C'est surtout le rôle de Matuziwa, je pense, qui est censé
être. Matuziwa, une fois, deux fois, la passe.
Celle-là, elle est magnifique.
Et celle-là, elle est pas mal aussi, la passe de Yildirim.
Mais enfin, du jeu à la verticale, quoi. Voilà. Oh là 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 là. Ça fait des mois que... Moi, j'étais debout sur le canap, là. Mais sérieusement.
Non, mais pareil.
On a joué verticalement, quoi. Ouf.
Parce que le nombre de fois où les attaquants rennais se rendent la politesse à l'entrée de la surface, ce qui est un peu une signature Stéphan quand même.
Oh, c'était aussi Genesio pareil, hein, ça prenait beaucoup de
mais
temps.
Mais c'est le manque de confiance de se dire je vais pas prendre la responsabilité d'y aller parce que si j'échoue, quoi. Mais en fait, quand c'est les attaquants qui manquent de confiance.
Oui. Après, c'est aussi la problématique des blocs bas. Toutes les équipes y sont confrontées. Là, on voit bien que le but, c'est pas du tout le cas. Mais en première mi-temps, vous avez 10 joueurs en face de vous. C'est compliqué aussi de trouver des ouvertures. Donc c'est normal que vous touchiez un paquet de ballons. Même s'il y a aussi le défaut, à part Gouiri, je pense, de joueurs de pas tenter assez leur chance et de vouloir absolument rentrer avec le ballon dans le but.
C'est lié au profil que vous avez offensif aussi. Je pense, malgré tout, cette volonté d'être toujours dans la surface avec le ballon, on l'a vu à ce jeu de Genesio, c'est quand même le profil des attaquants que vous avez qui
font profondeur.
Ça. Vous avez quand même pas beaucoup de joueurs qui sont des dragsters. Moi, c'est pour ça que je suis quand même un peu gêné que sur la fin de saison qu'on n'utilise pas Désiré Doué malgré tout sur un côté. Moi, je pense qu'il est quand même plus utile aujourd'hui sur la fin de saison sur un côté qu'au milieu de terrain, surtout que vous avez quand même de quoi faire au milieu de terrain malgré tout avec Le Fait et d'autres.
Sur le côté créativité, etc. Enfin, désarçonner, il apporte vraiment voir, en plus. Ouais, le côté facteur X sur le côté, hein, c'est lui. Ouais.
On se pose des questions sur la composition qu'il y aura dimanche pour la réception de Lens. Mais c'est quand même dingue quand même d'être obligé de marquer 3 buts chez un relégable pour l'emporter. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est la proactivité, c'est marquer plein de buts parce qu'on en prendra un certain nombre.
Tous les deux équipes qui marquent, ce sera formidable avec le Sadrani.
On me reproche chaque lundi de parler de l'arbitrage. On peut en parler quand même un petit peu. Monsieur Buquet, meilleur arbitre du monde, on l'a souvent dit ici.
Pour les Nantais et l'Orientais, oui.
Plus que jamais après ce week-end.
Pour les Rennais, plus que jamais ce week-end. Peu inspiré. Et alors, on va regarder quelques actions et derrière, on va y revenir. Là, il n'y a pas péno ?
Non,
mais bien sûr que si.
Il n'y a rien.
Regardez sous un autre angle. Alors, non seulement rien.
Il a trouvé un angle.
Regardez là. Là. Tac, là, il est touché.
Mais
donc, rien. Il a mal quand il retombe. Là, est-ce qu'il y a péno ?
Pour moi, oui, ça se siffle.
Oui, ça se souffle.
À chaque fois, les ralentis sont très trompeurs. À vitesse réelle, c'est pas du tout la même.
Parce que le ralenti, oui, on voit mal.
Il joue bien le coup, Calimano.
Là,
il y a péno.
Là, oui.
Tous les jours.
On va le revoir.
Bah oui.
Je croyais qu'il faisait la poule un peu. Mais non, il montrait. Regardez, hop, là, et on va mieux le voir sur cet angle-là.
Il écarte.
Regardez, Matuziwa s'en va, et le gars, il met son bras, histoire d'empêcher le ballon, mais il n'y a rien. Et là, c'est la dernière occasion du match. Est-ce qu'il y a faute de Matuziwa qui récupère le ballon derrière ? On voit ce qui va se passer. Ça va faire but.
Dans le mouvement.
Vous êtes médecin, vous dites.
Ouais, mais il n'y a pas de. Tu sens,
le joueur s'enlève.
Il n'y a pas le pied qui fait
là,
qui est appuyé dessus. Non, il n'y a rien.
Et là, c'est honteux.
Là, c'est scandaleux, mais t'as un rouge là-dessus.
Après, c'est pas directement. Ça ne concerne pas directement Rennes. C'est plus pour la fin de saison de Metz. Mais le carton rouge est validé à la 98e minute. Je ne suis pas sûr que Mikotadze.
Voilà.
Donc, vous me dites, il n'y avait pas péno sur Truffert ?
Non.
Jamais.
Jamais.
Arrêtez, Vincent.
Ok. Il y avait sans doute pénalty sur Kalimundo, le pénalty qui a sifflé.
Ça se discute, mais
c'est quand même assez généreux. Relativement généreux.
D'accord, ça change quand même un peu la phase du match, quand même.
Voilà, bien sûr.
À ce moment-là, il y avait un péno pour.
Sur le coup franc, oui.
Qui est totalement oublié, mais la VAR ne fait rien non plus.
C'est assez... Bon, pas de faute au départ du troisième but rennais. Ok, expulsion de Mikotaze, dont tout le monde espère, y compris les rennais, hein, qui va être levé. Parce que ça serait très dur pour Metz de se faire priver de son meilleur joueur.
Le truc, c'est qu'il faudrait que dans son rapport de match, monsieur l'arbitre ait mis justement qu'il s'était trompé, voilà, oui. Ce qui n'est pas sûr du tout.
Parce qu'il est allé voir.
Il a vu et qu'il a confirmé. C'est ça, dans l'absolu.
Donc est-ce que l'arbitre a eu une influence sur la victoire rennaise?
Et il a pas défavorisé Rennes. Bah non. Ça c'est vrai. C'est ça. Il a pas défavorisé Rennes. Est-ce qu'il a carrément offert sur un plateau la victoire à Rennes? J'irai pas jusque là. Il faut quand même avoir un peu de mesure et un peu de voilà. C'est pas l'arbitrage de Vernis sur le fameux match polémique ou celui de Brizard contre oui. Avec Marseille. On n'en est pas là quand même. Là,
est-ce que c'est une victoire à la lyonnaise?
Il a pas été bon.
Non, le truc de trop, c'est le rouge, parce qu'effectivement, ça a pénalisé les Messins s'il est maintenu, et ça c'est vraiment lourd. Quoi, parce que...
De toute façon, je pense que les Messins, ils notaient plus ça, le carton rouge, que l'ensemble du match, où, même en montrant le résumé tout à l'heure, on voit bien que Rennes a quand même beaucoup d'actions. Ouais. Comme disait Pierre, Metz, c'est quand même faible. Après, ils ont fait avec ce qu'ils ont comme qualité. Mais,
c'est faible, bon, mais ça met deux buts à Rennes. C'est ça qui est inquiétant. On regarde les notes des joueurs. Allez voir. Note pour Kalimuendo qui flirte avec les 7. Derrière, Bourigeaud et Matuziwa s'en sortent bien. Et puis de la défense, ils ont tous les mêmes notes. Dites donc, Seydou ou Théat, 3,9. C'est-à-dire pas vraiment 4, c'est QFD. Et Mandanda, alors 3,3. Revenons sur Kalimuendo dont on a déjà beaucoup parlé. Fin de saison quand même, en boulet de canon. Vous l'avez tous signalé avec des stats qui finalement sont intéressantes.
Oui, là il est arrivé dans ce qu'on attend de lui en fait depuis qu'il est arrivé de Lens il y a 2 ans, quoi. Donc enfin de Lens de Paris, mais c'est vrai qu'on attendait qu'il soit décisif et qu'il montre du caractère, qu'il pèse énormément devant. Après, comme le disait Guillaume tout à l'heure, je pense que les profils de Guiri, de Terrier normalement doivent être complémentaires de ce joueur-là, mais à un moment t'as utilisé plus facilement Guiri avec Terrier, etc. Donc Kalimuendo, il a mis du temps, je pense il a eu aussi des blessures récurrentes, à un moment c'était la cuisse, c'était d'autres choses comme ça. Là, on sent qu'il a la confiance. Je crois que c'est en 2024, il a marqué 11 buts, je crois, depuis début janvier.
Au 4-4-2, globalement, depuis le passage au 4-4-2, effectivement, c'est pas un joueur qui est trop fait pour jouer tout seul devant. Il faut quelqu'un autour pour pouvoir s'appuyer dessus, tourner autour. Là, avec ce système-là, oui, ça lui convient bien. Et comme il est plus en confiance, et comme il progresse aussi dans le jeu,
ce qu'il y a de fou, c'est que c'est depuis ces rumeurs de transfert en Allemagne qu'il enfile les perles depuis janvier.
Donc effectivement,
on se souvient qu'au début de la saison, en off, tous les dirigeants rennais nous avaient dit ce sera la saison de Kalimuendo.
Genesio l'avait dit en on, directement. Ce sera la saison de Kalimuendo.
Ouais, c'est peut-être les 5 derniers matchs, le quart de saison.
La demi-saison.
La demi-saison.
Je suis peut-être un.
Depuis le 4-4-2.
On va revoir des images de son match. Quand on dit qu'il a fait des progrès, vous les voyez où les progrès?
Il pèse beaucoup plus sur la défense, au-delà des stats. Enfin, je trouve qu'il est beaucoup plus présent, il y a plus d'épaisseur.
Dans son jeu, on voit qu'il est là, il est posé. Quoi. Tu sais qu'il va être, entre guillemets, casse-pied, voire.
Ça m'a fait rigoler, cette action-là. Je ne l'ai pas montré. Hop, je tombe.
Je me relève.
Je me relève. Hop, je tombe. Là, je ne me relève pas, mais. Voilà. Donc, le fameux vice dont vous parliez, Katel.
Oui, mais il faut ça aussi.
Alors, c'est Oukidja, un poète.
C'est un joueur qui s'arrête jamais. Je pense que les défenseurs. Si vous demandez aux défenseurs de Ligue 1 de juger Kalimuendo, je pense qu'ils vont tous vous dire que c'est sacrément pénible à marquer et à défendre. Parce qu'il bouge partout, il fait des appels à vide. Il rechigne jamais quand même. Il a quand même ce gros point fort.
Oui. Alors là, vous voyez, c'est là où il se fait faucher et où il y aura le fameux coup franc qui n'apportera pas de pénalty. Et puis son but de la 96e, il faut être lucide encore parce que c'est une grande course. On peut au moins. Voilà. Après, est-ce qu'il a été provocateur sur ce match-là? Un peu.
On n'a pas parlé non plus de ce qui s'est passé avec Arthur Théat, qui a reçu des projectiles en deuxième mi-temps, mais c'était une fin de match extrêmement tendue avec le public, avec les Messins. Enfin, je ne dis pas qu'il faut à chaque fois chambrer le public, etc., mais ça explique un petit peu ce qui s'est passé sur la fin quand il marque son troisième. Enfin, c'est vraiment une fin de match très tendue.
En tout cas, il ne mérite pas les tombereaux d'insultes qu'il reçoit sur les réseaux sociaux.
Jamais, personne ne doit avoir des tombereaux. C'est pas possible, ça.
C'est horrible. C'est affreux.
On est sur du harcèlement en ligne, quasiment. Donc,
on est de tout cœur avec lui. On ne le verra plus que 90 minutes sous le maillot rennais.
Suspendu pour Reims, ouais.
Oui.
Non, cette saison, c'est la
saison. Non, au total.
C'est ça.
La question. Ouais, c'était ça la question.
D'accord.
Oui, cette saison, oui.
C'est quand même une possibilité forte, ouais.
Ah oui.
Une très forte qu'ils sont
voilà. On imagine bien qu'il y aura de nouveau des intérêts avec un joueur qui vient de marquer beaucoup de buts dans une deuxième partie de saison.
Il faut quand même pas oublier qu'au mercato d'hiver, effectivement, il est resté. Si ça ne l'avait tenu qu'à lui, il serait parti.
Oui.
Parce qu'il souhaitait partir.
Oui, c'est ça.
Il y avait un accord avec Francfort. Voilà, et évidemment, les clubs allemands continuent de le suivre de près. Évidemment que sa fin de saison va contribuer à peut-être à faire gagner sa cote de quelques petits millions d'euros supplémentaires. On va dire ça comme ça.
N'oublions pas qu'en plus, il va jouer peut-être les Jeux Olympiques, ce qui peut lui donner aussi de la lumière, de la visibilité encore un peu plus.
D'accord. Donc, il va falloir profiter de Kalimundo dimanche face à son ancien club. Donc, ça sera intéressant. Autre joueur en progrès, on accélère un peu. Matuziwa, non ?
Oui.
Oui, tout à fait. Décisif. Bah après, là, en fait, sur l'ensemble du match, je trouve que c'est un peu compliqué de le juger tellement Rennes a eu le ballon et finalement, il n'y avait pas tellement de travail de récupération à faire. En attendant, ça fait deux matchs qu'il est décisif. Là, il ne fait pas de passe décisive, mais son action, pour moi, c'est tout comme à la fois sur la récupération et ensuite, la passe, pour moi, la passe clé qu'il fait pour Yildirim, bien son avant-dernière passe. Déjà, c'est lui qui était passeur décisif pour Kalimundo sur le premier but contre Brest.
Oui.
Donc, on voit qu'il fait des progrès, surtout dans un milieu à deux qui est quand même peut-être pas l'idéal pour lui. A priori, on l'imaginait peut-être comme Santa Maria. C'est peut-être un joueur censé plus être en sentinelle dans un milieu à trois. Et finalement, dans un milieu à deux, il s'en sort. Et,
il est attendu en juillet prochain. C'est ce qu'on nous a dit.
Non, c'est vrai. Mais ça peut être mais comme pas mal de joueurs de cet effectif, malgré tout, si on veut positiver, si on veut essayer de se projeter un peu plus loin, je pense que dans une autre structure d'effectif, avec une défense remodelée à 100%, parce que je pense qu'elle sera renouvelée à 100%, les quatre, vous pouvez dire les quatre, okay. Ça va changer.
Okay.
Une fois que vous aurez changé ça...
Je note et je suis content que vous le disiez.
Moi, je pense que c'est ce qui se passera.
Sinon, ce sera incompréhensible.
Oui. Et ensuite, voilà, vous avez ensuite la structure qui est quand même correcte au-dessus, avec des joueurs plus... on va dire plus en confiance avec plus de garanties par l'arrière, vous pouvez avoir des joueurs qui se révèlent et notamment Matuziwa le fait la saison 2 s'il reste lui aussi je pense que ça sera une bonne saison et vous pouvez en prendre d'autres des joueurs je pense qu'il y a quand même possibilité que ça soit en amélioration.
Un mot sur Théâtre, je le disais moi j'ai écrit ça que j'avais du mal à le noter Théâtre sur ce match là et effectivement les notes vont de de 3 à 6 pour Théâtre assez bizarrement. Comme les notes pour Kalimundo, des différents collègues vont de 5 à 8. Alors 5, c'est quand même... c'est sévère pour Kalimundo, le gars.
Late winner.
Mais Théâtre, il passe de 0 à héros, quoi, finalement,
S'il ne sauve pas la balle du 3-1, je pense que Rennes ne revient jamais. Hein.
Parce que là... Il est un peu coutumier du fait, quoi. Il fait des boulettes et puis derrière, il se rattrape.
C'est vrai qu'il a ce mérite-là, qu'il est un petit peu le seul à voir dans l'effectif. Hein. Je n'ai pas trop le souvenir de défenseurs qui vont faire des actions décisives ou qui vont se rebeller, etc. après avoir fait des boulettes. Donc c'est vrai que c'est très subjectif la façon de le noter sur ce match-là. C'est vrai qu'il sauve le 3-1, mais peut-être qu'avec nos défenseurs, il n'y a pas 2-1 déjà de base à la mi-temps. Après, il est plus décisif que sur les deux. Parce qu'après, il ne coûte pas directement, je trouve, les deux premiers buts.
Regardez, il se bagarre là sur le pénalty refusé à Truffert, c'est lui.
Contre
il n'y a pas pénalty, arrêtez.
Contre Brest aussi, c'est lui qui permet peut-être aussi à l'équipe de revenir de
2-4. Là, on se dit, il va encore en mettre un comme à l'arnaque et comme contre Brest. Bon, là,
mais on oublie qu'il a que 23 ans, c'est un international, ok, il a 23 ans. Vous voulez, on veut que ce soit un patron, un truc, un mec, un taulier, le type qui ne va jamais faire une erreur, qui sera ultra régulier. En fait, c'est juste pas possible.
Il a envie de se reposer un peu.
Oui, il a 23 ans. C'est pas possible de se reposer sur un joueur de 23 ans en taulier.
C'est surtout la première fois dans sa carrière qu'il reste 2 années de suite dans un club. Parce que souvent, il bouge beaucoup. Donc là, effectivement, peut-être que... pour moi, il ne restera pas non plus. Mais effectivement, et on peut peut-être imaginer qu'il a encore une marge de progression. Mais je suis d'accord avec Guillaume.
Oui,
tu dois avoir un taulier qui a 27, 28, et de l'expérience.
En défense, c'est sûr.
Il en faut au moins un.
Oui, au moins un.
Oui. Mais il n'y en a pas. Et depuis le début, on le dit.
Quand est-ce qu'on avait pris un défenseur trentenaire la dernière fois? C'était Da Silva, en fait, le dernier. Ça commence à remonter un peu.
Ça commence à remonter. Quand il y a des trentenaires, il y a même presque des quadragénaires. Mandanda, là, il n'est pas dedans.
Ah, il nous a refait ce qu'il nous a dit l'autre jour, après Brest. Quand un gardien ne fait pas d'arrêt quand il y a des tirs cadrés, c'est compliqué. Donc là, s'il ne fait pas d'arrêt sur le troisième but non plus, il est battu. Il n'y a pas de but, mais il est battu. Il touche pas le ballon. Il enchaîne.
Il part n'importe comment. Donc là, il n'est pas dedans. Pour autant, il jouera contre Lens.
Bah oui.
Ah oui.
Bah pourquoi bah, vous voudriez qu'il joue pas contre Lens?
Bah parce qu'au mari, il fait des boulettes, il joue pas le match d'après.
Donc c'est même le gardien.
Ouais, là, non. C'est Mandanda, ouais.
Bah, oui.
Mais je suis
assez. Capitaine,
c'est ça, c'est compliqué de. Moi, j'ai du mal à juger ses prestations. Et en même temps, on est tous un petit peu embêtés aux entournures. C'est-à-dire qu'on critique, mais bon, pas trop, parce qu'on voit c'est Mandanda, parce qu'il y a le passif, parce que.
Il y a le passé aussi.
Il y a le passé. Bon, oui, tu vas pas mettre Gauthier Gallon là. Enfin, sinon, tu. Enfin, bah, peut-être d'aucuns le feraient, hein, mais je.
Non.
Faut être couillu, quoi. Non mais il faut que ça se passe très très bien,
c'est
quoi.
Quand
tu
même
vois,
c'est le capitaine de Stéphane, ouais. Qui l'a mis capitaine exprès. Voilà, il va pas le. Enfin, ça n'a aucun sens qu'il le sorte là.
Une minute trente pour parler de Seydou.
Voilà.
D'accord. Ok.
Bah, Seydou, on va répéter ce qu'on a aussi dit 15 fois ou écrit 15 fois, c'est que bah c'est pas un latéral droit vraiment. C'est un voilà. Moi, je voulais toujours le voir essayer dans l'axe. Je l'aurais bien vu, malgré tout. Alors, même dans une défense à 4, qu'est-ce que ça vaut, axe droit, avec Théâtre, par exemple? Je sais pas.
Ouais. Bon, parce que latéral, c'est sûr qu'il apporte rien offensivement.
Non, c'est compliqué, c'est sûr. Sur ses centres, une qualité de centre qui est vraiment compliquée. On voit bien.
Ah ben oui, c'est moins qu'on puisse dire. Bon, alors, avant de parler de Lens, il y a quelques tweets quand même qu'on va regarder. Regardez. Voilà, Wayne, quel est le film préféré de Théâtre? Il était à l'Ouest une fois. Côté belge. Moi, ça m'a fait rire. Mais c'est des classiques. Hein. Julien Lechevesserier, notre collègue. La plus mauvaise défense de France avant celle du Saint-Rennais 2024, la ligne Maginot. Bien aussi, hein. Les feux de la Vienne, pour vous, les centres de Seydou sont des hommages à APAM. Vous n'avez pas connu APAM, mais... Et puis on dit que Florian Maurice a vendu tous nos bons joueurs, mais je suis désolé, il a quand même réussi à garder Benjamin Bourigeaud et Rudy Buquet. Gazon Breton et enfin Elios. Je regrette tellement de ne pas avoir de maillot floqué Cali, alors que j'en ai un immonde de Matic. Voilà, comme quoi n'achetez pas des maillots dès le début de la saison. Attendez un peu.
Surtout pas des Serbes.
Et surtout pas des maillots serbes. Et donc voilà que Lens arrive, mesdames, messieurs. Donc dimanche, les Lensois.
C'est un match pour la cinquième place, celui-là.
C'est un match pour la cinquième place, si Nice. Et si Lyon, si Lille, si, enfin si personne. Voilà. Comment vous l'imaginez, ce Lens-Rennes?
Avec des buts.
Plein. Vivement les pronos.
Plein.
Beaucoup de buts. 3-2 et 3-2 ou 4-2 ou des choses comme ça. Des buts.
Ouais.
Des buts. Forcément.
Alors, on ne peut pas dire que Lens affiche une forme, des garanties non plus extrêmes.
Il marque des buts.
Ouais, il marque des buts. Mais en
après,
même temps,
je suis d'accord avec toi que défensivement, c'est pas génial non plus.
Sur la fin de saison, c'est compliqué, Lens, quand même.
Il y a plein d'interrogations aussi sur l'avenir de Francaise là-bas. Qu'il y a plein de joueurs qui, après une saison où il y a eu la Ligue des Champions, il y aura plein de monde qui va s'en aller aussi. C'est sans doute un peu une fin de cycle là-bas aussi.
Wai sera suspendu.
Vous allez avoir une confrontation d'équipes. Vous allez avoir une confrontation d'équipes instables, en fait.
Oui.
D'équipes instables et assez imprévisibles, même si c'est pas les seuls. Voilà. Donc, forcément, quel match vous allez voir dimanche? En fait, on n'en sait rien, quoi.
On ne sait pas grand-chose. On a une équipe rennaise illisible. Enfin, sauf en défense où on sait qu'elle n'est pas bonne. Non mais c'est vrai, et on a une équipe lensoise, les Lensois par exemple n'ont pas gagné à Metz.
Oui, effectivement, Stéphane a évidemment insisté là-dessus. Après, c'est des configurations de match qui sont complètement différentes. Moi, ça n'empêche pas que ça aurait été une énorme contre-performance de Metz, vu le match de samedi, de pas gagner. Mais vous pouvez de toute façon prouver des contre-performances dans toutes les équipes cette saison. Vous pouvez trouver chez Brest, chez Paris, chez Lille, chez Monaco, des résultats improbables et chez absolument tout le monde. Donc,
c'est vrai.
Voilà, je me méfie un petit peu de tel match qui s'est mal passé pour telle équipe,
etc. C'est vrai, et l'équipe faisait valoir hier qu'il y avait plus de ventre mou. Dans ce championnat à 18 clubs, il y a pratiquement plus.
L'Europe, le maintien.
Ouais, c'est ça. Plus personne n'est vraiment.
À part Toulouse et Montpellier.
Ouais, voilà. Et Reims.
Dans un championnat où tu envoies 7 clubs sur 18 en Coupe d'Europe, ça ressemble de plus en plus au championnat de France de basket ou au championnat de France de rugby où tu envoies quasiment toutes les équipes en Coupe d'Europe ou machin. Bon, à un moment, il n'y a plus de ventre mou parce qu'effectivement.
Est-ce qu'il faut avoir peur de Lens?
Bah, il faut avoir peur de tout le monde.
Quand j'entends dans la salle une petite voix qui fait oui.
Bah, il faut avoir peur de tout le monde. Mais en même temps, Rennes est capable de battre aussi tout le monde sur un match. Donc voilà, bon courage pour les pronos. Moi, je suis incapable de vous dire ce que fera le match de dimanche.
Moi aussi. Alors, il n'y a pas Wai, donc on est sûr, côté Lensois.
Il n'y aura plus de Wesley.
Il y aura Wesley Saïd.
Mais c'est sûr, d'autant que Wai, il a marqué là contre Lorient. Enfin, depuis un mois et demi, il n'est quand même pas au meilleur de sa forme. Non. Et j'aurais préféré la maladresse de Wai à l'ancien Rennais au Roazhon Park.
Ouais, bon, c'est vrai. Puis il y aura peut-être un Fulgini aussi. Et toujours pas mal aussi quand il joue contre Rennes. Du moment où il n'y en a pas dans Didiouf.
Et donc par contre, pas de Matuziwa ni de
Alors,
Terrier.
Pas de Matuziwa. Pas de Terrier. Alors, on va revoir Terrier, pourquoi. Je m'en remets pas de ce carton de Terrier. à ce moment de la saison, c'est tellement dingue. Alors, il y a une faute, une grosse faute. Voilà. Et il fait ça. Il dégage le ballon. Et derrière, Magnetti, le dénonceur, va voir l'arbitre en disant « Regardez ce qu'il a fait, monsieur l'arbitre, monsieur l'arbitre !» Et il prend un carton. Il mérite de ce cas. Mais il est tellement bête.
Voilà, la logique voudrait que Santa Maria, s'il est remis, remplace Matuziwa, oui. Que Désiré Doué reprenne la place de Terry à gauche et oui. Que Lefebvre retrouve sa place au milieu de terrain. Quoi.
Donc, ouais. L'équipe vient de vous être enfermée, messieurs, par Père Argal.
La défense, on sait pas.
Ça, voilà. Ah non, alors la défense, oui, c'est ça.
C'est la défense, on sait pas. Alors, qu'on fait là maintenant?
Qu'est-ce qu'on fait?
On relance Guénadoué, parce qu'après le match,
moi, je pense qu'on garde les quatre mêmes que l'autre jour.
Ah oui, on garde les quatre.
T'as gagné.
Voilà, c'est ça, la différence par rapport à Brest où Rennes avait perdu contre Brest. Là, Rennes a gagné. Vous changeriez, vous ne changeriez rien.
Mais sans garantie aucune. Hein. Ça ne veut pas dire que.
Voilà, mais vous n'avez pas de garantie si vous changez. Vous n'en avez pas non plus si vous gardez. Si vous êtes pareil.
Les gens vont ressortir de là en disant.
Allez, signez le service après-vente. Mais par contre, il n'y a pas de garantie.
Alors, non, mais dans la logique de la victoire, effectivement, à Metz, oui, et du fait ça. Que vous avez besoin de stabiliser un minimum des joueurs qui sont déjà pas très stabilisés eux-mêmes en confiance, et ben vous repartez avec les mêmes.
Alors, il y en a un qui est stabilisé.
Il y a eu ça.
Il y en a un qui est stabilisé sur le banc, c'est Blas.
Instance de départ.
Ça, tu peux mettre entre parenthèses.
Instance de départ.
Ah non, mais bon, c'est difficile de projeter autre chose pour lui.
Oui.
J'imagine.
Je l'avais dit ou pas dans Pleine Lucarne en septembre.
Vous aviez des.
J'avais
des
quelques
doutes.
Réticences.
Oui, vous aviez des doutes. Parce que vous le suivez depuis longtemps.
Mais parce que c'est capable du meilleur comme du pire et qui peut passer au travers sur quasiment toute une saison.
Ça, c'est moche. Encore un bon recrutement. Pour l'instant.
La saison 1, mais encore une saison fois, 1. La saison 2.
On en a qui l'a écrit?
Bah non, mais on a connu tellement de joueurs comme ça qui sont en difficulté une saison, et puis là, après, voilà.
Ouais, souvenez-vous, Rae, quand il arrive.
Tout dépend de la structure, tout dépend des profils autour de lui. Il y a beaucoup de choses.
Moi, oui, je vois bien qui c'est, mais alors là.
La plupart des gens dans la salle voient qui est Rae.
Oui, pense à ton jeune public, Vincent. Ne l'oublie pas.
Mais. Bon. Donc lancez pas la terreur, on va revoir le match aller. Vous vous souvenez du match aller?
Pas du tout, moi.
Oui. Vous y étiez, Pierre?
Non, mais je me rappelle une première mi-temps très énervante.
Regardez, encore un ballon dégagé dans l'axe.
C'est à l'époque où on parlait de titre ou au moins de podium, et j'avais trouvé que Rennes était complètement dans ce qu'il avait fait la saison dernière, c'est-à-dire passer à côté des grands matchs. Oui. Je trouvais qu'ils étaient complètement pris par l'enjeu.
Mais il y avait quand même Kalimuendo, Bourigeaud, Kalimuendo, penalty. Voilà. Mais à l'époque, on se levait, on se disait comment un pénalty pour Rennes alors qu'on en a eu qu'un sur toute la saison dernière.
Et on a vu la brillante entrée de Matic sur les 20 dernières minutes où on se disait quand même il va tout changer.
Ah ouais. Et puis il y a eu Doku aussi qui était rentré sur ce match-là, qui avait raté une occasion. Parce qu'au début, Rennes est complètement mangé par Lens. Et en deuxième période, c'est Rennes qui a les occasions. Donc c'est assez équilibré, c'est des coachs qui s'apprécient, c'est des équipes qui ont des points communs, beaucoup. Et logiquement, on va en venir au prono, parce qu'on a le leader du classement avec nous, donc faut en profiter. Mais oui,
David. J'avais 4 à 2, moi, je pense. C'est pour ça que j'étais.
Regardez, Pierre Le Gall est pas mal, il est quasi européen, il est un peu.
Rappelle-moi, le bon prono est à combien?
C'est à 4 depuis que Nicolas Mangeur a fait changer les règles.
Ouh, on change pas les règles au cours de saison.
C'est quasiment inatteignable.
Non, oui. Là, vous pouvez être sacré dimanche soir. Alors justement, on va commencer avec vous, David.
c'est bien
le minimum.
Ce sera 4 à 3 alors pour Rennes.
4 à 3 pour
Rennes. Il y aura des buts.
Un vrai spectacle.
J'avais dit 4-2 à Metz.
Un vrai spectacle.
J'avais dit 4-2 à Metz.
3-3.
3-3, dit Catel. Les gens vont se régaler. Les places sont chères, comme toujours à Rennes, mais il y a du spectacle. Pierre.
3-2 pour Rennes.
3-2 pour Rennes. Ah, vache.
Allez,
Guillaume.
2-1.
Pour Rennes.
Oui.
Et alors, je suis navré de
1-0.
Je dis 2-1, 2-1 pour Lens.
Alors, on ne dit pas qu'on va jouer la cinquième place, alors?
Mais je dis que mathématiquement, c'est faisable. J'ai pas dit Rennes va jouer. Je joue mon rôle de Candide, Catel. Vous me connaissez depuis assez longtemps pour le savoir, quand même. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette émission. Il y aura des buts. Lundi prochain.
0-0, au départ.
Lundi prochain, on sera peut-être en train de se dire, mais non, vous vous rendez compte? La sixième place. Peut-être. La cinquième, pourquoi pas? Tout est possible.
Non,
ou l'inverse. Ou genre, c'est fini. c'est fini maintenant. Donc tout est possible parce que avec le Stade Rennais cette saison, tout est possible. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Très bonne semaine à tous. Portez-vous bien et évidemment, allez Rennes.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, La Française Immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.